libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les plateformes participatives libres, et en particulier Décidim et Agorasso, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la plateforme de pétition mise en place récemment par le Sénat, et aussi en début d'émission, la licence informatique de Paris 8 qui ne sera pas ouverte l'an prochain. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous y trouvez d'ores et déjà une page avec les références qui seront normalement citées dans le cadre de l'émission. Et nous mettrons à jour évidemment cette page après l'émission en fonction des discussions. Nous sommes mardi 11 février 2020, nous sommes en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir pendant l'émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de l'émission. Vous allez sur le site de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton chat et vous nous rejoignez sur le salon Libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Je vais détailler le programme du jour. Nous allons commencer dans quelques secondes par une interview de Pablo Rosi, donc qui est maître de conférence à l'université Paris 8, qui va nous parler de la récente motion annonçant que la licence d'informatique L1, première année de licence, ne sera pas ouverte l'an prochain. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre projet principal qui portera sur les plateformes participatives libres, donc Décidim, Agorasso et aussi l'association Code for France avec deux invités, Valentin Chaput et Léna Dumont. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui nous parlera là encore d'une plateforme, la plateforme de pétition mise en place par le Sénat. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour Patrick.
Bonjour, bon après-midi et bonne émission.
Merci Patrick. Place au premier sujet. Alors nous allons commencer par le premier sujet de l'émission, alors qui n'était pas prévu initialement dans le programme préparé il y a quelques semaines, mais j'ai vu par une annonce donc de Pablo Rosi, notre invité. Bonjour Pablo déjà.
Bonjour.
Alors Pablo, tu es maître de conférence à l'université Paris 8. L'université Paris 8, c'est à Saint-Denis, donc 93. Alors je vais pas détailler parce que on fera une émission consacrée rien qu'à ce sujet-là dans quelques temps, mais Paris 8 et l'April ont un lien très fort parce que bah, les fondateurs de l'April dont je fais partie ont fait nos études d'informatique à Paris 8. Bon, il y a bien longtemps, dans les années 90, et on a créé l'association à la sortie de cette fac d'informatique. Et j'ai vu récemment donc que le conseil des enseignants et enseignantes avait décidé de ne pas ouvrir la licence d'informatique L1 l'an prochain. Alors quelles sont les raisons?
Alors en fait, la situation est compliquée depuis assez longtemps. Nos tutelles, donc la présidence de Paris 8 et le rectorat de Créteil, sont au courant tout à fait de la situation. On manque de bras côté enseignants. On a un effectif étudiant qui est trop lourd pour ce qu'on est capable d'assumer en termes de moyens humains et puis tout simplement des salles informatiques.
C'est combien d'étudiants en licence ?
En L1, on a environ 140 inscrits-inscrites pour une capacité d'accueil théorique. C'est pas ce qu'on est capable d'accueillir physiquement, de 90 personnes.
D'accord, donc 140...
On est rempli à peu près à 150%.
150% de personnes inscrites, d'accord.
Et bah, du coup, la situation concrète, ça se traduit comment? Ça fait plusieurs années, en fait, qu'il manque 10 heures de cours par cours de première et deuxième année, que les TP ne sont plus dédoublés. Donc des TP plus dédoublés, ça veut dire qu'on se retrouve avec 40 étudiants en TP qu'on doit aller voir individuellement, mais quand on en a 40 et qu'on a que 2 heures, bah, en gros, on peut consacrer 1 minute et demie, 2 minutes par étudiant, c'est absolument pas assez. Qu'on n'ouvre plus les options qu'on veut en troisième année. Et puis, il y a même maintenant en L2, donc la deuxième année, depuis l'an dernier, on a 2 cours qui ne sont obligatoires et qui ne sont plus assurés, qu'on n'a plus les moyens d'assurer. Et tout ça, c'est malgré une équipe pédagogique hyper investie qui fait énormément d'heures complémentaires. Alors, quand on parle d'heures complémentaires à l'université, c'est un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dans ce microcosme.
Alors, explique-nous.
Donc, en fait, une heure complémentaire, c'est ce qu'on appelle des heures de service équivalent TD. Une heure, ça correspond, c'est ce qui est considéré comme 4 heures de travail. C'est payé moins que le SMIC horaire brut, ces heures de vacation à l'université. Et donc, bah, par exemple, moi, l'an dernier, avec la situation que je vous ai décrite, hein, donc c'est pas pour compenser ça, c'est malgré cette situation, j'ai fait 186 heures complémentaires, ça correspond à peu près à 5 mois de travail supplémentaire. Du coup.
Ouais. D'accord, gros charge de travail supplémentaire.
Ouais, et je suis pas le seul dans cette situation, hein, mes collègues ont fait en moyenne une centaine d'heures complémentaires, et malgré ça, on est dans la situation que je vous ai décrite. Donc c'est absolument plus tenable, et donc pour sauver notre formation...
Cette situation, elle dure depuis combien de temps en fait, cette situation ? C'est récent ou ancien ?
Alors que ça aille pas super bien, c'est pas récent, mais ça empire largement là depuis quelques années avec le gel des postes. Donc en gros depuis les réformes type donc la loi responsabilité.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un gel de poste ?
Alors un gel de poste, c'est le vocabulaire disons de l'administration pour expliquer que un départ à la retraite par exemple ne sera pas remplacé. Voilà, donc c'est
d'accord.
Le support de poste existe, il a un numéro, mais
il
n'est plus pourvu.
Pour
voilà,
d'accord.
C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle un poste gelé, au sens où théoriquement il pourrait être dégelé, mais pour l'instant ça s'est pas trop vu. Et donc bah typiquement avec les départs à la retraite ou d'autres types de départs, par exemple de collègues qui sont recrutés ailleurs, une promotion ou quelque chose comme ça, bah en fait comme ces postes-là sont pas remplacés, on se retrouve avec des enseignants de moins en moins nombreux, avec toujours le même nombre d'étudiants et du coup on n'y arrive plus quoi.
Alors je pense que cette décision prise a dû être une décision difficile. Conditions a été prise ? Est-ce que c'est l'unanimité ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions ? Et qu'est-ce que vous espérez concrètement avec cette décision ? Parce que c'est une décision très forte. Hein.
Alors oui, c'est extrêmement, extrêmement difficile à prendre comme décision. On ne s'aborde pas son outil de travail. Il y a le truc, ce pourquoi on donne énormément de sa vie, ce pourquoi on se lève le matin et ce dans quoi on s'investit à ce point-là. On n'a pas envie de faire ça en fait. Cette décision elle a été prise donc par le collectif des enseignants et enseignantes de la licence informatique à l'unanimité des présents ce jour-là, qui représentait une large majorité absolue des personnes qui sont membres de ce collectif, donc qui sont en fait tous les enseignants et enseignantes du département informatique, y compris les chargés de cours externes, les étudiants et étudiantes, tuteurs et tutrices, avec une pondération des voix en fonction du nombre de cours en gros qu'on donne dans la licence.
D'accord. Alors, en préparant l'émission, tu m'as parlé d'un sigle que je ne connaissais pas, LPPR, loi de programmation pluriannuelle de la recherche.
Ouais.
D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que ça va aggraver la situation ou est-ce que ça va corriger la situation ?
Alors, ça va certainement pas la corriger. Donc, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, c'est une loi qui est donc pas encore... Alors, il y a eu des fuites un petit peu, mais elle est pas encore publique. En revanche, il y a trois rapports qui ont été faits par trois groupes de travail... qui donne en gros le contenu et le corps et les orientations que va prendre cette loi. Et le principe, c'est d'aller toujours vers, dans la continuité logique des lois qui sont appliquées depuis 15 ans dans l'enseignement supérieur et la recherche, d'aller toujours vers plus de privatisation et de managérialisation, si on peut dire, de la recherche. Donc perdre de l'indépendance, perdre des crédits récurrents de financement qui nous permettent une indépendance et une recherche fondamentale de fond, et essayer toujours de devoir aller... chercher de l'argent auprès de l'industrie qui en fait est pas de l'argent industriel, qui est de l'argent public qui est donné à l'industrie pour qu'elle dirige la recherche au travers de dispositifs comme le crédit impôt recherche ou des choses comme ça.
D'accord. Alors je rappelle que vous pouvez intervenir sur le salon web et il y a Pitrouille sur le salon web qui dit waouh, il faut être sur quelle planète ces dernières semaines pour pas avoir entendu parler de la LPPR. Je suppose quand même que je suis pas tout à fait le seul à avoir entendu parler exactement de ce sigle-là, même si je vois bien de quoi ça il est question. Donc en tout cas, si vous avez des questions pour Pablo ou direction, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes soutenu par la direction de l'Université Paris 8 ? Comment la direction de l'Université Paris 8 accueille cette décision ?
C'est un petit peu compliqué et je pense pas que ce soit opportun de trop en parler maintenant.
D'accord.
Publiquement. Je suis désolé.
Ok. Et au niveau du ministère, est-ce que vous avez eu des échos ou
Alors au niveau du ministère, non, pas encore. En revanche, il se trouve que par un hasard de calendrier, le lendemain du jour où on a réussi à réunir le collectif des enseignants enseignantes de licence informatique, il y avait le CNESER, alors qui est le Conseil national
enseignement supérieur,
De l'enseignement supérieur et de la recherche, mais il y a un autre E quelque part, je sais pas. Enfin, en gros, c'est une instance du ministère qui n'a qu'un pouvoir consultatif, puisqu'il y a des élus, mais qui, du coup, pour nous soutenir, a produit une motion de soutien à notre action et qui a décidé de ne pas valider toutes les demandes de renouvellement de maquettes des diplômes de Paris 8 pour la rentrée 2020.
D'accord. Est-ce que cette décision est définitive ? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette décision ? Et si elle est définitive, quid de la suite, en fait, des années suivantes ?
Alors, la décision est définitive au sens où, si on commence à dire que, oui, en fait, on a dit ça, mais c'était histoire d'eux, en fait, ça ne sert à rien de le dire.
Tout à fait.
Donc oui, notre décision, elle est ferme, elle est définitive. En revanche, l'idée, c'est absolument pas de fermer la licence, c'est de la sauver. Donc l'idée, c'est de dire, on a besoin d'un temps de respiration, le temps d'adapter la situation, le temps de mettre enfin au clair les choses avec le rectorat pour qu'ils acceptent de constater qu'on a une capacité d'accueil moindre et d'adapter le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui nous envoient. par la plateforme Parcoursup. Et l'idée donc ce serait de fermer la L1 l'an prochain, potentiellement la L2 l'année d'après, puis la L3, mais c'est tout. Et ensuite d'avoir réglé les choses et de faire en sorte que les choses se passent mieux. Peut-être qu'on ait recruté à nouveau quelques enseignants ou enseignantes.
On dégèle les postes donc.
Voilà, des dégels de postes. ça serait quand même la moindre des choses vu la situation. Faut quand même savoir que c'est une licence qui est extrêmement demandée. Hein. Sur Parcoursup, l'an dernier, on avait 2400 demandes pour les 90 places.
Donc, 2400 pour 90 places.
Ouais, voilà. Ouais. C'est... Donc, et on a un taux d'acceptation. Du coup, on a dû, pour descendre dans la file d'attente de Parcoursup, on est descendu jusqu'à un peu plus de 400. C'est en Ile-de-France, la licence d'informatique, ou peut-être la deuxième, je dis ça juste pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais en fait, je crois que c'est la licence d'informatique la plus en tension. Et le rectorat est bien au courant de ça. Ils le savent. Donc,
D'accord. Avant de te laisser la parole pour peut-être une dernière intervention, Pitrouille sur le salon web nous précise donc que le CNESER, c'est Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la recherche, donc je le remercie
Merci.
Pour cette précision.
Donc c'était et le E qui manquait.
Voilà. Et, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou est-ce que comment on peut vous aider ou se tenir informé des suites de cette mobilisation?
Essentiellement pour l'instant, il y a le. Bon, nous, on va essayer de communiquer un petit peu comme on peut, mais il y a le blog Academia, donc qui est sur academia.hypothèse.org. Je crois qu'hypothèse est au pluriel, qui suit en fait cette histoire d'assez près. Et c'est un blog en fait qui de manière générale suit l'actualité de l'enseignement supérieur de la recherche assez bien, donc
d'accord. Et sur le site il y a le texte de la motion
notamment, ouais,
et les références sont sur le site de l'April, april.org. Effectivement, c'est hypothèse avec un S. Etienne Gonu sur le salon web nous le précise.
Merci Etienne.
Donc comme je disais, on fera une émission spéciale, un sujet long sur l'informatique, l'enseignement de l'informatique, la place du logiciel libre à l'université Paris 8, parce que étant ancien étudiant, je suis de Paris 8. Moi, j'ai passé plusieurs années vraiment merveilleuses avec une équipe enseignante. J'en parlais juste avant l'antenne, où on passait des nuits et parce qu'il faut savoir que à l'époque, ce qu'on appelle le bocal, c'est-à-dire le centre informatique, était ouvert jour et nuit. Et il y avait souvent des enseignants qui étaient avec nous et ça nous permettait de progresser puis d'échanger en dehors des cours. Donc vraiment une super licence. Et donc on en parlera dans un sujet long avec Pablo et sans doute une enseignante qui aujourd'hui est à Paris 8 et qui a fait les études en même temps que moi. Donc ça me fera très plaisir de la revoir. Donc sans doute au premier semestre 2020. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Non, pas spécialement.
Ok, c'était Pablo Rosi, donc maître de conférence à l'université Paris 8. Merci Pablo, je te souhaite tout de même une bonne journée.
Merci.
On va faire donc une pause musicale. Nous allons écouter Fan Service par Anosira. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Fanservice par Anozira, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les plateformes participatives libres. Donc nous allons parler notamment de Decidim et Agorasso, évidemment on va expliquer tout ça. Également l'association Code for France, l'entreprise Open Source Politics, avec donc nos deux invités que je vais commencer par présenter. Tout d'abord Léna Dumont, chargée de communication d'Open Source Politics. Bonjour Léna.
Bonjour.
Valentin Chaput, cofondateur de Code for France et d'Open Source Politics. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Alors, nous allons parler donc de plateformes participatives et on va commencer par l'une historique quelque part et qui prend beaucoup d'ampleur, qui s'appelle Decidim, qui veut dire, je crois, nous décidons.
En catalan.
En catalan. Première question déjà, c'est quoi une plateforme déjà participative libre en une phrase déjà, une ou deux phrases.
C'est une plateforme qui permet de mener des démarches de démocratie participative ou de gouvernance ouverte et qui est basée sur un logiciel libre. Contrairement à d'autres.
Alors contrairement à d'autres dont on a parlé dans une cas d'une émission, alors je me souviens plus quelle date, mais on retrouvera ça avec notamment Caroline Corbal. Mmh. Alors Decidim, donc c'est né en Espagne, à Barcelone, dans un contexte un peu particulier et tout à fait intéressant. Alors qui veut nous raconter un petit peu cette histoire de Decidim? Donc visiblement c'est Léna Dumont. Léna.
C'est moi. Oui, en fait c'est né à Barcelone, Decidim. Donc c'est un investissement public pour un logiciel libre. Et l'objectif de ce logiciel, c'était de mettre en place un plan d'action municipal co-construit ou co-écrit avec les citoyens de Barcelone. C'est un logiciel qui aujourd'hui peut être utilisé à d'autres échelles. Il a été utilisé pour une ville, mais il peut être utilisé pour des associations dans le cadre d'une organisation interne ou d'une gouvernance interne. Il peut être utilisé donc à une petite échelle, donc une ville, et à une grande échelle. En ce moment, à l'échelle nationale, il est utilisé par le Sénat pour mettre en place une plateforme donc, qui est en ligne aujourd'hui, la plateforme de pétition du Sénat, où les citoyens peuvent déposer leurs pétitions ou signer les pétitions des autres.
Ah, je précise avant que tu continues que... En fin d'émission, nous aurons une chronique de Xavier Bern qui portera absolument sur ce sujet-là, pas sur la partie technique, mais plutôt sur la partie politique. Mais je te laisse poursuivre.
Bien sûr, donc ça peut être utilisé à une échelle nationale. On a aussi un exemple avec la Convention citoyenne pour le climat où les citoyens pouvaient déposer leurs propositions eux-mêmes pour aider les 150 autres citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. C'est un logiciel libre qui peut, du coup, qui a été utilisé par les villes voisines de Barcelone au tout départ, et qui s'est développé un petit peu, donc les villes voisines, etc., pour créer une communauté. Donc, on sait qu'un logiciel libre a besoin d'une communauté pour fonctionner. Donc, il y a eu des contributeurs de ce logiciel libre autour de Barcelone. Donc, la communauté s'appelle Meta Decidim. Et chaque contributeur vient discuter. Donc il y a une progression du logiciel, en fait. Chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice et développe surtout des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées par d'autres utilisateurs de Decidim.
Alors, est-ce que je peux me permettre de te poser deux questions? La première, tu as dit que c'était dans le cadre donc d'un plan pour Barcelone, pour la municipalité. Donc, si je me souviens bien, c'était avant des élections.
Oui.
Et ça a été ensuite plus ou moins ou pendant les élections?
Non, en fait, c'est donc en 2015, la coalition Barcelona en Comú remporte les élections.
Ah oui, donc c'est après leur victoire.
Et après, en 2016, ils mettent en place une plateforme, donc Decidim, pour co-construire le programme d'action, le plan d'action municipal.
Donc ma mémoire me trahissait. Ouais. Et donc ça a été mis tout de suite en logiciel libre. Mais il y a aussi un second point qui me paraît très intéressant, sur lequel je voudrais que tu reviennes tout à l'heure. Hein. C'est la partie charte aussi. C'est-à-dire qu'un engagement, un certain nombre d'engagements qui participent au fait que finalement il y a de la réciprocité, que d'autres villes effectivement autour de Barcelone utilisent cet outil. Ça sera un point important. Alors, tu commençais à parler des fonctionnalités. Pour être un peu plus concret, aujourd'hui, si une structure veut utiliser Decidim, quelles fonctionnalités majeures cette plateforme propose?
Alors, les fonctionnalités, ça dépend en fait complètement du projet de participation que les donc associations, villes ou même pays veulent développer. Et il y a donc les peut-être Valentin peut les décrire mieux que moi.
Valentin, je peux compléter, mais effectivement, donc Décidim, c'est un peu une sorte de Lego de la participation, et on peut créer des démarches qui sont très différentes et qui sont basées sur des briques, des fonctionnalités. Et donc, on a des appels à idées, hein, des propositions qu'on va pouvoir sur lesquelles on va pouvoir mettre des commentaires, des votes, éventuellement des jetons de soutien, des amendements participatifs, etc. Donc, c'est un module qui est très riche. On a des questionnaires, donc qui permettent de faire des petites enquêtes. On a des modules de vote sur des budgets participatifs. Ça, c'est une des grandes fonctionnalités de Décidim. On a des modules de rencontres qui permettent d'annoncer un agenda d'événements et donc de rendre participatif aussi des réunions physiques. Et puis ensuite il y a des fonctionnalités un peu plus originales de tirage au sort, on pourra peut-être y revenir, donc de pétition, hein, dépôt et signature de pétition, et puis tout simplement d'actualisation d'une démarche avec des petits blogs, avec des pages d'actualité, etc. Et donc mise bout à bout et agencée différemment selon des calendriers qui peuvent varier d'une institution à l'autre, être des espaces ouverts ou fermés, etc. On a une pluralité des démarches qui sont rendues possibles par des.
Et ça couvre un large usage possible pour des organisations diverses et variées. Mmh. Léna, je te laisse poursuivre sur les villes proches donc, de Barcelone qui ont contribué à l'amélioration de cet outil-là.
Voilà, donc en fait, de fil en aiguille, ça a créé une communauté qui s'appelle aujourd'hui Meta Décidim. Et cette communauté donc, échange sur le logiciel. Elle fonctionne autour d'un contrat social, autour du logiciel. Et en fait, toutes les décisions sont prises démocratiquement via cette communauté Meta Décidim. Et c'est devenu en fait une communauté internationale aujourd'hui, grâce à des contributeurs dont nous faisons partie, donc Open Source Politics. On a développé des plateformes de participation et de démocratie participative en France, donc plusieurs échelles. Et on a aussi donc aujourd'hui Mexico, la ville de Mexico, qui l'utilise, le gouvernement italien, Helsinki. Elle est aussi utilisée au Québec, cette plateforme. Le gouvernement belge, éventuellement, l'utilise aussi. Et voilà. Donc aujourd'hui, on fait partie des plus grands contributeurs de cette communauté en développant des logiciels en France et ailleurs.
Alors, on va y revenir sur cette partie contribution et aussi le modèle économique parce que c'est assez intéressant et ce sera l'occasion d'expliquer quel rôle joue Open Source Politics. D'ailleurs, j'aurais peut-être une question sur le nom que vous avez choisi pour cette structure, mais on va revenir sur la charte parce que c'est. Alors, on va rappeler donc, premier point, c'est un logiciel libre, donc c'est une licence particulière qui s'appelle l'Afero General Public License. Mais ce qu'il y a en plus et ce qui paraît intéressant dans cette démarche-là, c'est la charte. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette charte? Quels sont les points les plus importants dans cette charte et quel apport ça a par rapport au simple fait que ce soit un logiciel libre? Qui veut répondre?
Alors, effectivement, donc Décidim parle d'un contrat social qui est une charte qui vient en plus finalement des licences du logiciel libre, donc qui sont des licences sur la partie technique et sur la réutilisation du logiciel et sa contribution. Mais au-delà des aspects techniques, il y a aussi un usage qui est encadré pour se revendiquer de la communauté Décidim. Et donc cet usage, il doit garantir la traçabilité des données et des contributions. Hein, c'est-à-dire que on ne fait pas n'importe quoi avec l'expression des citoyens sur la plateforme. On doit garantir d'abord l'intégrité, donc c'est-à-dire qu'on a des outils sur la plateforme qui sont directement dans le code, qui permettent de vérifier que quand un citoyen s'exprime, sa contribution n'est pas réécrite, transformée ou complètement censurée, effacée. Il y a des traces de tous ces éléments. Et l'idée de Décidim, c'est d'avoir une traçabilité de bout en bout. C'est-à-dire qu'on part d'une idée exprimée par des citoyens et on peut aller jusqu'à la réalisation concrète d'une politique publique et montrer tout le cheminement administratif, technique, financier qui conduit donc de l'idée à la réalisation. À côté de cela, il y a une transparence des données, donc par défaut. Il y a une API qui couvre maintenant tous les Decidim.
Une interface de programmation. Exactement.
Qui permet du coup de réutiliser des données de Decidim et de les afficher ailleurs, notamment. On a des données qui par défaut sont accessibles et téléchargeables sur la plateforme, hein, en open data, données ouvertes. On a des enjeux de protection de l'utilisateur, c'est-à-dire que là aussi, par exemple, ses emails, son email qui est utilisé pour la création du compte, n'est pas exposé aux administrateurs qui pourraient en faire n'importe quoi derrière. Et notamment le réutiliser pour envoyer des communications qui ne sont pas liées à la plateforme. C'est-à-dire que c'est un environnement finalement complet.
Sécurisé finalement pour la personne qui contribue via Decidim.
Voilà, d'une certaine manière, c'est la garantie pour le citoyen qui va utiliser la plateforme et contribuer que d'une part, il y a une traçabilité sur ce qu'il dit, que ça ne peut pas être effacé, trafiqué, etc. Et d'autre part que ces données ne vont pas être réutilisées à des fins qui ne sont pas celles qu'on peut espérer attendre dans un cadre démocratique. Et donc ces règles-là du contrat social s'imposent finalement aux utilisateurs et aux administrateurs notamment qui mettent en place des démarches avec Decidim. Et après il y a tout un débat juridique sur voilà la portée de ce contrat social.
Pour bien comprendre, c'est-à-dire que si quelqu'un, une structure, met en place Decidim, elle est contrainte par le fait que ce soit un logiciel libre, mais elle est aussi contrainte par cette charte. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas mettre en place cette plateforme sans respecter cette charte-là.
En tout cas, elle ne peut pas faire partie de la communauté
Decidim
et être reconnue comme telle. Et
c'est une sorte de tampon de transparence cette communauté Decidim.
Exactement. Qui rajoute donc du coup une couche juridique et politique aux licences techniques.
D'accord. Et aussi l'autre côté intéressant dont a parlé aussi Léna, c'est quelque part un partenariat public commun parce qu'en fait il y a des municipalités, il y a des structures associatives et puis il y a aussi des entreprises. Alors justement, quel rôle joue une entreprise comme Open Source Politics dans cet écosystème Decidim ? Qu'est-ce que quelle est votre pierre à l'édifice ou comment vous utilisez Decidim ? Léna Dumont ?
Alors en fait, on accompagne des projets participatifs, quel que soit-il, tant qu'il y a vraiment un projet de faire participer une communauté. Nous, on a une expérience dans le logiciel Decidim, parce qu'on le connaît depuis 2016, on le regarde de France, et puis maintenant, on a quand même une expérience, même aux différentes échelles, que ce soit pour une ville, pour une région, pour un département, etc. Et on accompagne ces villes. Donc souvent, elles viennent, donc ces villes ou ces organisations, elles viennent nous chercher en fait, en disant voilà, on veut installer une plateforme Decidim, on sait que vous avez une expérience, est-ce que vous pouvez nous aider à l'installer ? Donc nous, on apporte notre expérience technique dans le logiciel, parce qu'on a des développeurs dans notre équipe, mais aussi sur le point, sur le volet conseil en fait, parce que tout dépend du passif de l'organisation qui vient vers nous. Si c'est la communauté qu'ils veulent faire participer n'a jamais participé à quoi que ce soit et surtout pas en ligne, alors on va commencer par exemple une grande question qu'on posera à la communauté et ils viendront y répondre, les citoyens viendront y répondre, etc. S'il y a déjà une expérience de participation ou même une expérience online, on peut essayer de pousser un peu le processus participatif avec d'autres fonctionnalités que permettent Decidim. En fait, Decidim, c'est un logiciel qui permet de faire quelque chose de très simple comme quelque chose de très complexe.
Et il faut de l'accompagnement.
Il faut de l'accompagnement.
Et donc vous, votre modèle finalement de... Parce que vous êtes une entreprise, Open Source Politics.
Oui.
C'est donc de faire... payer, ce qui est normal, cet accompagnement, que ce soit l'accompagnement dont tu parles humain, mais aussi l'accompagnement technique, peut-être au niveau programmation, installation aussi.
C'est ça, c'est-à-dire que l'avantage du logiciel libre, c'est que le client, donc qu'il soit public ou privé, peut choisir déjà le cadre dans lequel est déployé Decidim. C'est-à-dire que soit il fait appel à notre paquet avec hébergement, maintenance, support, soit il peut choisir de l'héberger sur son serveur ou de nous demander à nous de venir l'héberger, de l'installer sur son serveur. Et dans les deux cas, on peut intervenir et apporter notre brique technique. Et puis à côté de cela, en réalité, la participation, nous, notre expérience depuis maintenant quand même quelques années, c'est que ça ne s'improvise pas. D'abord, il y a un certain nombre de, bon, de bonnes pratiques, de règles.
Je crois qu'il y a des gouvernements qui pensent que ça s'improvise.
Oui, peut-être, mais bon, nous on sait que ça marche moins bien dans ce cas-là. Et donc dans ce cadre-là, ça transforme finalement le rôle des animateurs, qu'ils soient donc des élus, des agents publics, des animateurs de communauté dans une entreprise, une association, un réseau. Forcément, l'apport d'un outil va transformer un petit peu leur manière de fonctionner. Surtout, il faut arriver à construire une démarche qui a du sens de bout en bout, qui apporte un vrai pouvoir aux citoyens et les bons supports aussi hors de la vie numérique, parce qu'on sait que les bonnes démarches arrivent à combiner ce versant en ligne et une participation qui est rendue possible aussi hors ligne par d'autres biais, etc.
Oui, parce qu'on sait très bien que certains outils informatiques peuvent réduire la participation.
Exactement.
Et c'est, on
Exactement.
Parle de la fracture, mais donc c'est important.
Exactement. Et donc ce volet d'accompagnement, de conseil, c'est une autre finalement activité. Donc on a la technique et l'accompagnement. Et puis dans certains cas, effectivement, on est amené nous-mêmes à développer des nouvelles fonctionnalités sur Decidim et donc à les reverser ensuite à la communauté.
Ouais. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez derrière le terme qui est à la mode depuis quelques années de civic tech ou pas du tout ?
De moins en moins.
De moins en moins.
On a participé à son essor en France. C'est un terme qui vient évidemment des États-Unis où il y a eu des déclinaisons de plein de choses en tech. Et la civic tech, l'idée, c'était d'avoir des outils qui renforcent l'engagement des citoyens, la participation démocratique, y compris entre les élections, parce qu'il n'y a pas que les élections. Et le corollaire, c'était aussi renforcer la transparence des institutions, des organisations qui mettent ces démarches en place. Dans les faits, aujourd'hui, c'est un terme qui a été aussi beaucoup détourné dans une stratégie start-up de vendre des projets, une croissance.
Start-up nation.
Voilà, exactement. Et donc, finalement, la dimension civique a un petit peu disparu et en fait c'est beaucoup des entreprises qui deviennent des prestataires des gouvernements, donc on parle plutôt de GovTech si on veut rentrer dans le plutôt que de Civic Tech, parce
donc
que
GovTech, la finalité GOV, quoi, comme gouvernement.
Voilà, Gov comme voilà, on est au service de nos clients qui sont des gouvernements plutôt que des citoyens, et donc aujourd'hui le terme sans doute ne convient pas complètement et ou en tout cas si on l'utilise, nous on rajoute quand même une dimension qui a été beaucoup développée à Barcelone, qu'ils appellent la technopolitique, c'est-à-dire que c'est le numérique apporte énormément de choses, mais il faut en faire un usage critique et stratégique, c'est-à-dire que c'est pas du tout solutionniste. Là où le discours ambiant sur la civic tech, c'est que on met un nouvel outil, ça va transformer la démocratie, ça va être génial. Et à nouveau, ça ne s'improvise pas, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des jeux de pouvoir derrière aussi, et des modèles économiques différents qui peuvent avoir une incidence sur la finalité. Et c'est pour ça qu'on se reconnaît beaucoup dans ce que fait Decidim, à travers le logiciel libre, le contrat social, et finalement aussi l'inspiration, l'ambition de Barcelone depuis le démarrage de ce projet.
D'accord. Alors je jette un œil sur le salon web. N'hésitez pas à venir participer à la discussion donc sur causecommune.fm bouton chat. Donc il y a Pitrouille qui nous signale l'article donc de Silex Info. Le contrat social de Decidim vers des logiciels libres à mission. Et Étienne qui nous Calimac, voilà.
Exactement.
Lionel Morel. Merci. Trop de mémoire, c'est horrible. Et donc Étienne lui qui nous dit, on se rappellera de l'excellent billet de Regard Citoyen, Civic Tech ou Civic Business, le numérique ne pourra pas aider la démocratie sans en adopter les fondements. Évidemment, nous rajouterons ces deux références sur le site de l'April. Dans la page consacrée à l'émission. Open source politics aujourd'hui, c'est combien de personnes?
Et aujourd'hui, nous sommes 16.
D'accord,
donc c'est une entreprise qui a bien grossi.
Voilà, c'est une entreprise qui a bien grossi et une preuve qu'on peut faire du logiciel libre, on peut contribuer à un bien commun et avoir une entreprise florissante dans ce domaine-là.
Tout à fait. En fait, ce qu'on observe, c'est que depuis quelques années, de toute façon, il y a une demande forte hein, qui vient de des institutions, de plus en plus des organisations, parce que en réalité, ces outils permettent quand même de prendre des décisions de manière élargie, en s'affranchissant un petit peu des contraintes d'espace et de temps qui sont forcément auxquelles on est forcément confronté quand on essaye d'avoir une démocratie un peu plus participative, un peu plus dynamique, voire un peu plus directe. Donc ces outils apportent quelque chose. Simplement avec la généralisation de ces expériences, nous on parle beaucoup de ce terme-là, c'est-à-dire que on n'est pas du tout naïf, pas du tout solutionniste sur les apports de ces civic tech. On pense qu'au contraire, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de démultiplier les cas d'usage, les expériences. Ça va faire monter ce qu'on appelle souvent dans ce milieu-là la culture de la participation, aussi bien chez les décideurs, les acteurs publics et les citoyens eux-mêmes, hein, qui il faut parfois aussi un peu accompagner, hein, pour qu'ils se prennent au jeu. Et du coup, le développement de cette expérience généralisée implique que des acteurs émergent pour avoir ce rôle d'accompagnement technique ou conseil. Et l'intérêt du logiciel libre, et on le voit avec Decidim, c'est qu'il y a une communauté qui maintenant se crée à travers l'Europe, de différents prestataires qui peuvent accompagner des institutions et travailler à l'amélioration du commun. Et on espère d'ailleurs qu'en France, on sera pas les seuls
se saisir de ces outils.
Exactement.
Alors c'est très bien ce que tu fais la transition avec le sujet suivant, qui va être justement en fait le projet que vous portez, ou la plateforme que vous portez actuellement, qui s'appelle... Donc, on va préciser quand même que le site web de Decidim, si vous voulez des informations, c'est decidim.org, sur lequel il y a beaucoup de liens, et on mettra évidemment les références sur le site de l'April et sur le site de la radio. Donc vous proposez, enfin vous avez mis à disposition, et c'est initialement d'ailleurs Caroline Corbal donc, qui était intervenue, alors je vais préciser que Caroline Corbal donc, qui était intervenue dans l'émission du 26 mars 2019, justement sur les civic tech. On avait parlé de l'importance des logiciels libres, la transparence, et on avait beaucoup parlé d'une plateforme privatrice à l'époque, mais que je ne reciterai pas parce qu'on en a suffisamment parlé, voire trop parlé. Donc n'hésitez pas à écouter ce podcast. Et donc Caroline m'a récemment contacté en me disant, bah écoute Fred, Code for France vient d'ouvrir Agorasso, une plateforme donc justement mise à disposition des associations pour justement découvrir et tester Decidim. Pourquoi vous avez ouvert cette plateforme et dans quelles conditions vous avez ouvert cette plateforme? Léna, Valentin, qui veut répondre? Léna Dumont.
Oui, comme tu l'as dit, en fait, on accompagne le projet de Code for France avec le soutien de la mairie de Paris pour que les associations de Paris puissent découvrir le logiciel Decidim et l'utiliser dans le cadre soit de leur projet interne ou de gouvernance interne, soit l'utiliser avec des personnes externes pour prendre des décisions, etc. C'est vraiment une mise à disposition gratuite des associations de Decidim pour qu'ils l'expérimentent et qu'ils découvrent aussi toutes les fonctionnalités de ce logiciel, et il y en a beaucoup, et qu'ils fassent en fait à leur sauce la participation telle qu'ils le désirent.
Alors quand tu dis avec l'aide de la mairie de Paris, donc c'est la mairie de Paris a fait une subvention ou vous accompagne dans le projet, d'accord?
Le soutien financier de la mairie de Paris.
D'accord.
Pour les associations parisiennes.
Donc la plateforme est réservée uniquement aux associations parisiennes ou c'est ouvert à toute association?
En réalité, c'est ouvert à toute association. C'était principalement ciblé à la base sur les associations parisiennes, mais la mairie de Paris n'avait pas d'inconvénient évidemment à ce que ça serve à toute association. L'idée, effectivement, c'est que pour des associations, ça peut être plus compliqué d'avoir un accompagnement qu'il soit technique ou conseil. Et donc, à travers l'activité de Code for France, il y a cette mise à disposition d'une plateforme et donc d'un espace sur cette plateforme pour expérimenter avant de voir s'il il faut aller plus loin ou tout simplement pour répondre à des besoins ponctuels d'une association. Voilà.
D'accord. On va faire une pause musicale et après on va rentrer un peu plus en détail sur justement Agorasso et puis aussi Code for France, donc on a cité mais qu'on n'a pas encore présenté. Alors le choix musical, la pause musicale a été choisie par mes invités et j'en les en remercie. Alors, on va écouter Conjugation par Uncle Milk. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune 93.1. Thank you.
Nous venons d'écouter Conjugation par Uncle Milk, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Avec nos invités, nous parlons des plateformes participatives libres. Nous allons donc continuer. Donc, nous sommes toujours avec Léna Dumont et Valentin Chaput. Alors juste avant la pause musicale, on parlait de Agorasso, donc qui est une plateforme mise à disposition par Code for France, dont on en parlait tout à l'heure, basée sur Decidim, mais donc qui s'adresse en priorité aux associations parisiennes, mais qui est en fait ouverte un peu plus largement. Est-ce que toute association, quelle que soit sa taille, sa structure, ses besoins, peut utiliser et tester Agorasso, et quel est le coût d'entrée? Valentin Chaput ou Léna
qui... Non,
Valentin. Excusez-moi, Léna Dumont.
Non, il n'y a pas de coût d'entrée, justement. C'est un peu ça qui est mis en avant. Et surtout, toutes les associations qui le désirent peuvent en bénéficier. Donc, c'est une plateforme Decidim qui est totalement mise à leur disposition et gratuitement. C'est un plus pour chaque association voulant tester en fait, la participation en ligne. Sachant que parfois une association a du mal à s'organiser du simple fait que tous les adhérents ou tous les contributeurs de l'association ne sont pas disponibles au même moment ou n'habitent juste pas au même endroit. Donc c'est une façon de s'organiser. Decidim permet de mieux s'organiser, de mieux connecter les personnes sur un même espace.
Et donc le site, alors je vais le citer parce que je ne l'ai pas cité pour le moment, c'est agorasso.codefort.fr. On mettra évidemment les références sur le site de l'April et sur le site de la radio. Et donc il y a un accompagnement qui est fait, parce que comme tout à l'heure dans la première partie, Valentin Chaput expliquait l'importance de l'accompagnement dans les outils de participation, à la fois pour la prise en main de la partie technique, mais aussi pour l'accompagnement des gens qui ne sont pas forcément habitués de ces outils-là. Donc Code for France, alors déjà explique-nous Valentin ce qu'est Code for France déjà, première question.
Alors Code for France, c'est un réseau de personnes, je pense qu'aujourd'hui il y a 150-200 personnes qui sont en tout cas inscrites sur l'espace de discussion, qui remonte à déjà quelques années, mais il a connu plusieurs itérations, je peux y revenir dans un instant, dont la finalité finalement, alors le slogan c'est un peu de mettre la technologie au service de l'intérêt général. Derrière ça, ce qu'on entend, c'est justement retrouver un petit peu la sève initiale de la Civic Tech, c'est-à-dire mener des programmes de mise à disposition de logiciels, de plaidoyer pour la transparence électorale, politique, démocratique, et accueillir finalement des projets qui réfléchissent à ces enjeux de débat démocratique, ou aussi de transparence. On a un très beau projet en ce moment, par exemple, qui vise à rendre lisible, accessible, consultable, la base de toutes les données des entreprises, donc les données financières des entreprises. Il y a des données qui sont ouvertes, mais il faut des interfaces aussi pour les rendre accessibles.
Donc c'est un collectif, quoi.
Code for France, c'est un collectif, voilà, qui réunit finalement énormément d'acteurs autour de projets qui sont acceptés et un petit peu incubés, accompagnés. L'objectif étant donc de mettre à disposition notamment quelques outils techniques qui sont mutualisés, donc il y a un chat, il y a un site, il y a à travers Agorasso une plateforme Decidim qui est librement utilisable, etc. Et l'idée, c'est qu'on se réunit, donc à peu près deux fois par mois. C'est un peu une porte ouverte à personnes qui ont envie de rejoindre un projet, de s'engager, avec ou sans compétences informatiques d'ailleurs. Et puis par moment, des actions de plaidoyer, des événements qui sont organisés un peu plus gros. On essaie de participer, par exemple, au mois de mai prochain, il y a la Nuit du Code Citoyen, qui est un événement qui a 3-4 ans maintenant, et dont on est partenaire aussi depuis la création. On essaye d'apporter des projets sur des hackathons, ou d'en mentorer d'autres, ou voilà, tout simplement.
Un hackathon.
C'est un marathon de hackers, donc c'est d'ailleurs l'activité première de ce réseau Code for France, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il existait sous un autre nom qui s'appelait Open Democracy Now, et qui réunissait à intervalles réguliers une centaine de personnes qui venaient sur un week-end participer à un projet informatique de transparence, d'engagement des citoyens, etc. Donc on a accompagné à l'époque des projets comme La Primaire, comme Ma Voix, qui ont vraiment été des expériences politiques propres. Et puis, à travers des partenariats avec Open Law, par exemple, que vous avez peut-être interrogé dans cette émission, voilà, qui milite pour une ouverture du droit, travailler sur des questions de chartes, de principes. On s'approche de ce qu'a fait Decidim en Espagne, on essaie de l'adapter aussi. Et l'idée de ce collectif, c'est, sur un temps bénévole, d'essayer d'aider ce type de démarche, d'être le plus inclusif possible, et de mener un plaidoyer, des recherches, et d'organiser des événements pour permettre à chacun d'accéder à ces technologies, et surtout, là aussi, de mettre un peu d'humain derrière, d'accompagnement, pour... voilà, donc... On a un certain nombre de projets qui ont été accompagnés, labellisés par Code for France. L'an dernier, vous parliez du grand débat tout à l'heure, on avait la grande annotation, par exemple, qui était l'idée de pouvoir étiqueter les contributions des citoyens sur la plateforme du Grand Débat pour pas s'en remettre à des logiciels d'intelligence artificielle relativement opaques dont on n'avait pas de visibilité sur le code, permettre à plus d'un millier de citoyens de venir labelliser donc ces contributions et finalement faire un premier travail de synthèse collectif. Il y a comme ça différents projets qui sont accompagnés, qui peuvent être ponctuels ou qui peuvent être sur un temps plus long, auxquels on apporte un peu de temps, un peu de bonne volonté, un peu d'énergie, et tout simplement un moment convivial pour régulièrement travailler dessus, nourrir, etc. Donc, de cette base de hackathon, en fait, on a gardé un peu cette logique de récurrence et de mise en commun des compétences, toujours bénévoles, mais au service, du coup, de gens qui souhaitent mener un projet ou voilà, tester des solutions.
Avant de revenir à Gorasso, tu parles donc de rencontres régulières, donc c'est des rencontres à Paris ?
C'est des rencontres à Paris.
Tu parles des rencontres physiques ?
Oui, les rencontres physiques sont beaucoup à Paris. Elles ont lieu pour la plupart au Liberté Living Lab, qui est un bâtiment qui se trouve dans le 2e arrondissement, donc c'est assez central, c'est assez pratique pour les Parisiens, ou les Franciliens en général. L'idée, c'est que c'est un bâtiment qui accueille un certain nombre d'initiatives, d'institutions publiques, mais aussi donc, de jeunes entreprises, qui essayent de contribuer par la technologie à résoudre des défis politiques, sociaux, de santé, environnementaux. Donc on a accès à ce bâtiment pour se réunir régulièrement. Alors c'est toujours un enjeu hein, depuis le départ, évidemment on aimerait bien pouvoir aller hors de Paris pour des raisons de ressources, de moyens, y compris de ressources humaines, on n'a pas forcément la possibilité de le faire. Il est généralement possible de rejoindre via de la visio nos événements, mais c'est aussi pour ça qu'on est partenaire, on essaye d'être partenaire d'autres démarches, les rencontres
villes.
Exactement, les rencontres de la citoyenneté numérique à Poitiers chaque année, la nuit du code citoyen dont je parlais qui a été lancée par les bricodeurs à Lyon, donc un collectif aussi à Lyon et qui aujourd'hui s'organise dans une dizaine de villes francophones. Il y a un certain nombre comme ça de démarches dont on est partenaire pour essayer de faire en sorte tout simplement qu'il y ait ailleurs qu'à Paris évidemment la même énergie et la même capacité à contribuer.
D'accord, de toute façon je suppose qu'on peut aussi vous contacter par courrier électronique ou chat.
Tout à fait, il y a un chat qu'on peut rejoindre depuis donc le site codefort.fr.
Codefort.fr.
Voilà, on peut rejoindre le chat et là il y a par projet un fil de discussion et puis l'annonce des différents événements. Voilà.
D'accord. Présentation très claire donc de Code for France. Donc Code for France propose Agorasso, donc on va revenir à Agorasso. Allez, supposons que je sois une association, bon, j'ai vu qu'il y a une quinzaine d'associations qui sont référencées sur le site, dont une, le nom m'a fait très plaisir en tant qu'ancien joueur de handball, et c'est Roulette Handball. Je trouve que le nom est absolument génial et puis la description de l'association est très intéressante. Comment concrètement une nouvelle association peut se créer un espace ? Est-ce qu'elle doit le faire tout seul ? C'est-à-dire, est-ce que se créer un compte et elle est un petit peu se débrouille ? Ou est-ce que d'abord il y a une prise de contact, un échange pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme ? Léna Dumont, comment ça se passe concrètement ?
Alors, sur la page d'accueil de Agorasso, c'est assez clair. En fait, vous contactez un membre de Code for France qui va vous accompagner complètement dans votre démarche de participation et va vous aider à mettre en place tout ce qu'il faut pour faire la participation de votre association. Donc vous envoyez un message et on vous accompagne dans l'administration en fait de la plateforme Décidim. Donc comment installer et quoi installer, parce que tout dépend des besoins et de l'association aussi. Donc vous envoyez un mail et le but c'est que vous soyez pas du tout perdu. Aussi, avant d'envoyer votre mail, si vous avez juste par curiosité envie de savoir, il y a aussi des notices qui sont disponibles directement sur la plateforme Agorasso. On vous explique un petit peu comment se déroule l'installation et l'inscription sur la plateforme Agorasso de votre association. Alors par exemple, il y a aujourd'hui des associations qui se sont juste inscrites et le nom de l'association apparaît sur la plateforme et ils n'ont pas encore démarré le processus de participation. D'accord. Il y en a d'autres qui ont entamé ce processus, donc par exemple Open Law, qui a mis... alors le projet c'est de mettre... Eux ils font des formations... c'est une association qui fait des formations et ils ont mis en place leur présentation, et le but c'est d'être collaboratif, que les gens viennent dire ce qu'ils veulent ajouter, ajouter leur contribution finalement aux présentations de Open Law.
Des formations autour du droit.
Oui, mm-hmm. C'est ça. Voilà, donc en fait. Plusieurs associations sont mises, donc là on est au nombre de 15, mais ça va sûrement augmenter, et je pense qu'on va voir apparaître toutes sortes de formes de participation. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être de l'organisation interne d'une association, par exemple élire le président de l'association, faire de l'écriture collaborative pour rédiger le règlement de l'association. Ça peut être simplement planifier une réunion pour l'organisation interne de l'association, mais ça peut aussi englober des personnes externes et faire participer des personnes externes à l'association, ou des adhérents, etc., ou des bénéficiaires, ou simplement des Français, enfin, ça peut être un peu tout le monde. Et là, on peut parler de rencontres, d'événements, de discussions, de votes, de tirages au sort, etc. Voilà. Donc, quand vous êtes une association et que vous voulez installer un processus participatif, le mieux, c'est de le faire par étapes, donc la plateforme le permet. Et je donne un exemple pour que ce soit plus compréhensible. Vous voulez faire un budget participatif, ça c'est l'étape 1. Les gens votent pour ce qu'ils veulent voir se mettre en place. Puis vous mettez vous installez la fonctionnalité de suivi des projets. Et là, les gens peuvent venir voir ce qui a été fait par rapport à ce qu'ils avaient voté. Et là, par exemple, on peut installer l'apparence de pourcentage. On voit ce qui a été fait, combien de pourcents, où est-ce qu'on en est dans le projet, etc. Donc ça, c'est la fonctionnalité suivi des projets. Et voilà, on peut un peu, avec toutes les briques de Décidim, faire un projet participatif qui a un début et une fin.
Et on peut commencer petit
et
progresser. Valentin Chapitre.
Il y a peut-être un élément, effectivement, pour des personnes qui n'auraient pas déjà vu une plateforme Décidim. On peut préciser, pour que ça soit un petit peu plus clair, que en fait, Décidim est un générateur de démarches de participation. Donc on va avoir plusieurs espaces qui vont correspondre soit à un budget participatif, soit à un vote, soit à une démarche d'écriture collaborative d'un texte, etc. Et l'idée, c'est qu'avec Agorasso, on partage cette plateforme et donc ces différents espaces avec d'autres associations. C'est aussi la réciprocité. On n'a pas une plateforme complètement en marque blanche autonome de l'association, mais on vient avoir un espace. Cet espace, il peut être soit privé, et dans ce cas-là, il n'y a que des utilisateurs autorisés qui le voient et peuvent y accéder. Soit c'est un espace public, et donc c'est ce qu'on voit actuellement sur la plateforme. C'est des espaces avec à chaque fois une page d'information, et puis l'administration, soit d'un module de proposition, d'une enquête, les deux, un agenda, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, à travers Agorasso, on a accès à un de ces espaces. Et ce que disait tout à fait justement Léna, c'est que la raison pour laquelle il faut d'abord contacter Code for France, c'est que on va donner accès à un de ces espaces à l'administrateur désigné par l'association pour mener sa démarche. Et donc, il y a toutes les notices qui sont évidemment déjà disponibles sur la plateforme, mais ce contact permet d'avoir une prise en main, finalement, et l'administrateur d'une association ne va gérer que son petit espace à côté de tous les autres. Voilà. Ce qui permet de faire cohabiter aussi les différentes démarches. Mais le mieux, ce serait effectivement pour nos auditeurs et auditrices d'aller voir Agorasso et voir très concrètement à quoi correspondent ces différentes briques.
Alors, avant de poser la question qui me venait à l'esprit justement en t'entendant parler, il y a Étienne sur le salon web qui demande que tu précises ce que c'est qu'une marche.
La marque blanche.
Une marque blanche, excusez-moi.
Et bien donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'institutions, d'organisations qui vont souhaiter utiliser Décidim, mais ne pas du tout appeler cette plateforme Décidim, et avoir une plateforme qui est adaptée avec leurs couleurs, leurs logos, leurs typographies, évidemment leur contenu. Et donc ça, c'est le cas plus classique des clients, par exemple d'Open Source Politics. À chaque fois, on vient adapter Décidim pour que ça soit la plateforme du client, parce que en réalité, c'est ce client qui engage sa démarche. Et donc, dans ce cas-là, il y a toujours une mention de Décidim, quelque part, mais c'est pas ça qui est mis en avant. Alors qu'effectivement, sur Agorasso, on vient partager l'espace de Code for France, et à l'intérieur, on a accès à ces fonctionnalités. Et par contre, au sein de notre espace, les fonctionnalités sont pas limitées. Donc on peut faire un tirage au sort, puis un module d'enquête de satisfaction sur la démarche, par exemple.
D'accord. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'aller voir sur le site à quoi ça ressemble. Est-ce que Décidim a un mode de démo, comme ont certains sites ou plateformes qui, avec des champs pré-remplis, qui permet de voir à quoi ça ressemble?
Et ben donc l'idée, c'est que Agorasso fait aussi un peu office de démo, c'est-à-dire qu'il y a un des espaces sur lesquels on a une présentation des fonctionnalités assez basique. Donc il faut savoir qu'Agorasso, c'est un projet assez récent, donc on est aussi il y a aussi un enjeu de démontrer à quoi cela correspond. Après, évidemment, Open Source Politics, on a notre propre démo de Décidim qu'on peut aussi présenter. Et il faut savoir que Décidim, en tant que projet international, a sa propre plateforme de démonstration. Et là, sur cette plateforme, on peut avoir librement, donc ça se trouve sur notamment GitHub, qui a les
GitHub,
identifiants.
C'est une plateforme d'hébergement de site web, de projet libre.
Voilà, et du coup, on peut récupérer les identifiants d'administration.
D'accord.
Pour venir voir exactement à quoi sert Décidim, comment c'est construit côté back-office, quoi.
Et est-ce que cette initiative Agorasso, donc, qui est soutenue par la mairie de Paris, qui s'adresse avant tout aux associations parisiennes, est-ce qu'il y a des initiatives de même genre dans d'autres villes en France ou même en Europe, à votre connaissance?
Pas à ma connaissance.
Question piège.
Pas à notre connaissance.
Pas pour le moment. Pas avec Décidim, oui.
Je crois pas.
Ouais, pas pour le moment. Et en l'occurrence, c'était ce projet donc, qui a été porté par Code for France et notamment par Caroline Corbal, dont on parlait tout à l'heure. Était l'un des lauréats d'un appel à projet de la mairie de Paris. Donc l'idée était de mettre à disposition cette plateforme et de regarder ce qui se passe autour.
Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il existe d'autres plateformes libres du même niveau que Décidim, voire supérieures ou pas, ou un petit peu inférieures, ou vraiment Décidim s'est imposé comme la plateforme de référence par son modèle, et par le fait qu'elle soit libre, mais aussi par son modèle?
À nos yeux, et on a un petit peu d'expérience dans le domaine, c'est aujourd'hui de loin la meilleure plateforme, aussi parce que c'est la plus modulable. À l'origine, notre groupe, communauté, collectif autour de Code for France a beaucoup travaillé sur DemocracyOS, qui était un logiciel argentin, qui est un peu plus ancien, qui était beaucoup plus simple, il y avait moins de fonctionnalités, mais ça marchait déjà, c'était assez intéressant. Ça nous a aussi permis de faire un apprentissage de ce que c'était que ces enjeux de démocratie participative en ligne. On parle aussi beaucoup de la plateforme Consul, qui a été créée par la mairie de Madrid avant Barcelone, à peu près dans les mêmes temporalités, c'était le même objectif, 2015, victoire aux élections municipales d'une coalition citoyenne, volonté de mettre en place une politique plus participative, création d'un logiciel. Et d'ailleurs, au tout départ, à Barcelone, ils ont essayé d'utiliser Consul et puis ils ont divergé sur justement la modularité de la plateforme. Consul était avant tout construit par la municipalité de Madrid pour la municipalité de Madrid. Décidim avait justement une vision tout de suite d'en faire un outil qui peut fonctionner, réutilisable, utilisable à plusieurs échelles en parallèle, etc. Donc il y a eu une divergence. On sait que c'est des communautés qui se connaissent, hein, qui discutent entre elles, donc on espère qu'elles vont pouvoir reconverger. Mais aujourd'hui, oui, Décidim c'est vraiment imposé sur parmi les plateformes participatives en général et encore plus parmi les outils libres. Il faut savoir que par contre, il y a d'autres outils qui existent. Par exemple, on parle donc aussi en ce moment des pétitions. Il y a certaines plateformes de pétitions qui ont existé notamment dans le monde anglo-saxon, hein. L'administration Obama avait sa plateforme de pétition, le Parlement britannique aussi. L'intérêt de Décidim, c'est finalement d'avoir un outil qui permet ces multiples usages et donc qui donne encore plus de liberté derrière dans l'utilisation.
D'accord. Alors, Gibus m'en voudrait si j'oublie de poser la question, parce qu'en préparant l'émission sur l'un des salons de l'April, donc Gibus demandait pourquoi sur le site de Code for France, il y a le choix d'utiliser le terme numérique plutôt qu'informatique. Valentin.
C'est une très bonne question à laquelle on n'a pas forcément réfléchi au préalable. C'est amusant parce que nous, dans notre domaine, en anglais en tout cas, on parle plutôt de digital democracy, donc plutôt digital. Et justement, en France, on ne dit pas démocratie digitale, on dit démocratie numérique. Je ne sais pas pourquoi ce terme s'est imposé plus qu'informatique. J'ai l'impression que c'est un peu dans le langage courant, le mot numérique est utilisé largement. Et donc, il a été décliné de cette manière. Je sais que l'étymologie de numérique renvoie plutôt aux chiffres, aux nombres. Et donc, peut-être au code aussi, hein, qui est à la base... peut être binaire, mais c'est une bonne question qui est avec une réponse ouverte parce que c'est un choix presque inconscient, je dirais.
D'accord. Ouais. Alors, autre question, et j'avais dit que j'allais la poser tant que j'y suis dans les questions comme ça. J'y vais. La structure, donc l'entreprise s'appelle Open Source Politics autour du logiciel libre, et c'est marrant d'avoir choisi ce terme-là. Enfin, pourquoi avoir choisi ce terme open source alors que justement l'open source vise à enlever tout le côté politique dans le sens vie de la cité qui est porté par le free software, par le logiciel libre. Alors, pourquoi ce choix de ce terme ?
Alors, si on fait un petit peu d'histoire de ce terme, à l'origine, Open Source Politics a été créé sous forme d'un meet-up associatif en 2015. Et on cherchait un terme qui exprime notre ambition de l'époque, c'est-à-dire de discuter de ces nouvelles technologies démocratiques et la nouvelle manière de faire de la politique à partir de là. Et ce qui nous distinguait d'autres acteurs en France, c'était l'open source, c'est-à-dire le fait qu'on rende ouvert et accessible le code source des plateformes. Et finalement, ce terme s'est assez vite imposé. Il avait été utilisé préalablement par une de nos inspirations, Santiago Siri, qui était le fondateur de DemocracyOS, cofondateur en Argentine, et qui avait écrit un article qui s'appelait Open Source Politics. Et donc, on s'était dit que c'était intéressant de reprendre ce terme, et puis il est resté, parce qu'il nous convenait bien. Et finalement, il traduit non pas forcément la dimension logiciel libre complètement, mais par contre, il traduit assez bien notre ambition, qui est d'avoir un libre accès et finalement une transparence du code source politique qui permet à nos institutions de prendre des décisions. Et voilà, ça se retranscrit assez bien par Open Source Politics.
D'accord. Alors le temps file, l'émission se termine sous peu. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur que ce soit sur Code for France, sur Décidim, Agorasso? En tout cas, bon, évidemment, on encourage les structures parisiennes et autres à tester Agorasso en insistant sur le fait que ça fait un coût d'entrée très réduit parce qu'on peut vous proposer avec cette plateforme de tester l'outil. Et je suppose que si par exemple une structure veut ensuite installer sa propre instance, elle peut récupérer ces données qui ont été créées via l'instance Agorasso.
Elle peut être accompagnée pour le faire. Ouais. Et donc effectivement, après, l'idée de Code for France, c'est de permettre à un maximum de personnes de devenir autonomes aussi dans la gestion de leurs outils. Et donc ça peut faire effectivement l'objet d'ateliers, de discussions avec Code for France. Ouais.
Et d'accord. Léna, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sinon, tu vas m'obliger à chanter.
Bien
et tu
sûr
sais ce que je vais chanter.
Non, pas du tout. Non, merci. Je veux bien ajouter que si vous avez été curieux et si ça vous intéresse de connaître ce que peut rendre Décidim via des processus participatifs, vous pouvez aller sur notre site internet opensourcepolitics.eu et vous avez un tas de références qui sont nos références et vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Décidim et tout ce que nous on a pu faire avec Décidim et avec d'autres institutions.
Oui, parce qu'il y a, des références, tu le disais tout à l'heure en introduction, dans d'autres pays. Tu parlais de Mexico, il y a Helsinki.
Oui. Il y a des références dans d'autres à l'étranger, à l'international. Et nous, on a nos propres références, en majorité en France, mais aussi en Belgique. Et voilà, elles sont disponibles sur notre site. Et en fait, on voit bien les clés du succès de chaque plateforme et les différences qu'il peut y avoir entre toutes celles-ci. Et voilà, et tout ce qu'on peut faire avec Décidim.
Et alors, je vais laisser le mot de la fin après à Valentin Chappé s'il veut rajouter quelque chose. Dans un mois, c'est les municipales, hein, 15 et 22, si je me souviens bien. Ça peut être un engagement que les gens qui nous écoutent aillent voir les candidats et candidates pour leur proposer, après l'élection, d'installer des propres instances Décidim pour les citoyens et citoyennes en local. Hein, c'est une action possible à faire. Valentin Chappé, je te laisse le mot de la fin.
Remercier l'émission, l'April en général, parce que on sait que sur ce sujet, c'est très important de faire la promotion et la défense du logiciel libre. Nous, on essaye de contribuer à cela. À travers l'exemple de Décidim, on a finalement une très belle incarnation des principes du commun, avec un acteur public qui finance initialement et qui aujourd'hui commence à avoir une communauté internationale qui vient contribuer à cet investissement. Et c'est aussi grâce aux plaidoyers, aux actions concrètes, à la diffusion à travers des émissions comme celle d'aujourd'hui, ces usages, ces enjeux, que on a des décideurs et on a des citoyens et on a des informaticiens, des développeurs qui s'engagent aussi dans ces démarches. Donc c'est très important de continuer ces discussions-là et on vous remercie pour l'invitation et pour cette opportunité.
Voilà. Merci pour ce que vous faites et tu parles de la ville de Paris qui fait pas mal de choses autour du logiciel libre. Je vais aussi citer l'UTES qui est le portail. Et alors là, je ne me souviens plus dans quelle émission, mais nous avions eu le plaisir d'avoir Pierre Lévy qui était venu parler de retour d'expérience de l'UTES en compagnie de Laurence Compara, si je me souviens bien, de la mairie de Grenoble. Et l'an dernier, il y avait une tribune qui avait été signée par Emmanuel Grégoire, par Jean-Christophe Becquet, le président de l'April, et d'autres personnalités, avec un appel pour le logiciel libre dans les municipalités. Donc voilà, c'était important de le citer. Écoutez, je vous remercie pour votre participation et vos explications sur Décidim, Agorasso et Code for France. Et en fait, on ne va pas totalement abandonner ce sujet avec la chronique d'après. Donc c'était Léna Dumont et Valentin Chappu. Et nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Room 208 par AeroCity. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune 93.1.
venons d'écouter Room 208 par AeroCity, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant, mais sans toutefois changer totalement de sujet. Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, intitulée « Parole libre ». Xavier Berne est journaliste à Next Impact, et dans sa chronique, Xavier nous parle de l'actualité politique et juridique du numérique. C'est assez marrant par rapport à la question de tout à l'heure, mais c'est le titre de sa chronique. Et on va pas totalement changer de sujet, vu que le sujet du jour, c'est la plateforme de pétition mise en place par le Sénat. Déjà, Xavier, est-ce que tu es avec nous au téléphone ? Et bonjour.
Oui, je suis là, bonjour.
Alors, le Sénat donc a ouvert le mois dernier une plateforme de pétition en ligne basée sur le logiciel dont on a parlé tout à l'heure, Décidim, et qui permet notamment de demander l'inscription d'un texte à l'ordre du jour du Sénat. Xavier, peux-tu nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne ?
Oui, bien sûr. Alors, cette plateforme qui a effectivement été lancée fin janvier, elle permet deux choses. La première, en fait, c'est de proposer l'adoption d'un texte législatif, c'est-à-dire qu'en fait, les citoyens peuvent demander à ce que les sénateurs se penchent sur une proposition de loi en particulier. Et deuxièmement, les citoyens peuvent aussi demander la mise en place de ce qu'on appelle une mission de contrôle, afin que les sénateurs mènent différentes auditions, enquêtes, un peu comme on l'avait vu lors de l'affaire Benalla. Donc après, concrètement, pour déposer une pétition, en fait, c'est vraiment très simple pour qui a l'habitude de se servir d'un ordinateur. Faut s'authentifier sur la plateforme donc de pétition du Sénat en utilisant par contre le dispositif dit France Connect. Vous savez, ce bouton en fait qui permet de se connecter avec son login et mot de passe qui fonctionne par exemple sur le site des impôts ou de l'assurance maladie. Alors pourquoi cette authentification via France Connect ? En fait, c'est simplement pour vérifier que l'internaute est bien de nationalité française. Et éventuellement même s'il est majeur, puisque pour déposer une pétition, il faut avoir au moins 18 ans. Voilà, donc ensuite, une fois que l'internaute a proposé une pétition, les services du Sénat effectuent un contrôle dit de recevabilité, c'est-à-dire qu'en fait les services vont regarder si le texte ne contient pas de dispositions qui pourraient être manifestement contraires à la Constitution. Voilà, c'est pour écarter tout ce qui va être de type négationnisme, incitation à la haine. Puis voilà, il y a pas mal d'autres choses qui sont interdites, comme les pétitions publicitaires, les pétitions qui pourraient porter atteinte à la présomption d'innocence, voilà, etc. Et une fois validée par les services de la Haute Assemblée, la pétition est publiée là sur la plateforme du Sénat, et l'objectif est de réunir à ce moment-là 100 000 signatures dans un délai de 6 mois.
Donc s'il y a 100 000 signatures, ça permet de valider entre guillemets cette pétition, c'est ça ?
Alors on pourra y revenir un petit peu après, mais l'idée effectivement c'est ça, c'est plutôt d'arriver vers des débats. Le problème c'est qu'en fait la procédure est quand même très verrouillée et concrètement c'est dur de savoir à quoi ça mène. Du coup j'anticipe un petit peu sur la suite, mais typiquement sur les propositions de loi, une fois qu'on a atteint le seuil des 100 000 signatures, là c'est la commission compétente en fait en fonction du sujet, donc ça peut être la commission de la culture, la commission des lois, la commission des finances, qui là va effectuer un deuxième contrôle de recevabilité. Et là, les critères sont encore plus stricts, en fait, puisqu'ils vont, par exemple, s'assurer que le texte en question relève bien du domaine de la loi et donc du règlement, et en fait, donc, du coup, que ça empiète pas sur les compétences du gouvernement et via les décrets, notamment les arrêtés ministériels. Ils font également vérifier que le texte répond aux règles dites de recevabilité financière, qui interdisent, en fait, que les parlementaires créent de nouvelles charges sans prévoir des recettes en compensation. C'est-à-dire que si on veut faire un texte qui, une réforme, je ne sais pas, qui aurait un coût vraiment, eh ben, il faut dans le même temps prévoir en fait des recettes financières nouvelles pour compenser le coût de la réforme qu'on propose. Et puis, surtout, les sénateurs vont aussi s'assurer que le texte qui est proposé dans la pétition ne porte pas sur un objet identique à celui de disposition déjà examiné par le Sénat depuis moins d'un an. Et quand on voit en fait l'étendue des textes et des sujets qui sont débattus en l'espace d'un an au Sénat, on voit qu'il y a énormément de choses qui risquent en fait de passer à la trappe, vu qu'il y a beaucoup beaucoup de sujets qui sont examinés. Mais pour répondre à ta question de base, si malgré tout vous arrivez à avoir 100 000 signatures et que le second filtre de la recevabilité est franchi, alors certes on est arrivé à la fin du processus, mais le problème c'est qu'en fait il ne se passe pas grand-chose. Il est uniquement prévu que ce qu'on appelle la conférence des présidents, et en fait qui décide de l'ordre du jour du Sénat, prenne acte en fait de la validation en quelque sorte finale de la pétition et en informe tous les sénateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut en fait simplement dire que chaque sénateur sera libre de reprendre, s'il le souhaite, une pétition, intégralement ou en partie. Mais c'est pourquoi en fait ce nouveau dispositif, il fait avant tout penser à une boîte à idées, parce que les pétitions, elles vont simplement servir en fait de base à de futures propositions de loi, dans le meilleur des cas, et ce qui garantira absolument pas qu'il y ait un examen en séance publique, et encore moins, ça garantit encore moins qu'il y ait une adoption du texte. Parce que voilà, je vous le rappelle, que je t'explique pour ceux qui ne savent pas forcément, l'essentiel en fait des textes qui sont adoptés à l'Assemblée comme au Sénat sont d'origine gouvernementale. Ils proviennent de l'exécutif. Et les parlementaires, eux, ils ont beau pouvoir déposer des propositions de loi, il y a les règles en fait d'inscription à l'ordre du jour font qu'en fait c'est la majorité qui a la main haute en fait sur les textes qui sont débattus. Et voilà, je crois qu'il y a un peu moins de 10% des textes adoptés chaque année par le Parlement qui sont d'origine parlementaire. Donc voilà, on voit quand même assez clairement qu'il risque de pas ressortir grand-chose de toutes ces pétitions.
En tout cas, c'était important de rappeler cette différence entre un projet de loi donc, qui vient du gouvernement et la partie proposition de loi. Mario Dill sur le Salon Web nous dit que c'est un joli truc sur le papier, mais en fait une procédure bien longue. Il y a Étienne qui nous dit « Est-ce de la poudre de perlimpinpin ?» Donc avant de répondre à la question sur la poudre de perlimpinpin, ça fait 2 semaines que le site a ouvert ses portes. Est-ce qu'il y a déjà des premières pétitions qui ont été soumises?
Alors oui, il y a à peu près une trentaine de pétitions qui sont essentiellement faites pour des propositions de loi. Puis, comme je vous l'expliquais au début, il y a aussi en fait la possibilité de faire des demandes de missions de contrôle. Alors là, sur les missions de contrôle, il y en a quelques-unes. J'ai vu que ça tournait pas mal autour de la question de la souveraineté nationale, des effets de l'entrée de la France dans la zone euro. Donc on voit aussi que malgré tout, sur ce type d'outils, il y a des fois certains courants de pensée, on va dire, qui arrivent à se mobiliser pour mettre certaines choses à l'ordre du jour. Voilà, pour après, sur les pétitions, sur les propositions de loi, voilà, pour donner quelques exemples, il y a des choses sur l'abolition de la chasse à courre, sur la TVA réduite, sur les produits bio. Il y a des personnes qui demandent l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique. Mais là, pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, typiquement, c'est quelque chose qui n'arriverait pas à son terme, puisque sur le démarchage téléphonique, je sais que ça a été débattu il n'y a pas très longtemps. Exemple, il y a des choses sur la réunification de la Bretagne, il y a des choses sur la reconnaissance du vote blanc. Voilà, c'est quand même très, très, très vaste.
Après tout, c'est aussi à ça que servent les boîtes à idées, parce que finalement, ça ressemble plus à une boîte à idées qu'à autre chose, pour le moment en tout cas. Après, on verra si des sénateurs et des sénatrices s'en emparent pour porter une proposition de loi avec les réserves que tu as mises au début. Donc là, on parle du Sénat, mais est-ce que sur l'autre chambre, donc l'Assemblée nationale, ce droit de pétition existe également, et est-ce qu'il y a une plateforme qui existe aussi ?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de plateforme, mais ça devrait arriver. Parce qu'en fait, l'année dernière, les députés ont réformé leur règlement et il est prévu justement qu'il y ait là aussi une plateforme de pétition en ligne qui soit mise en œuvre. Donc voilà, ça, elle n'a pas encore vu le jour, mais je pense que ça ne devrait pas tarder parce que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps, en fait, comme quoi un marché était en passe d'être signé pour que cette plateforme soit mise en œuvre. Après, on reste sur un dispositif qui est quand même très proche de celui du Sénat, avec à nouveau un seuil de 100 000 signatures pour que ce soit adopté, que ça arrive à son terme au stade de la commission. Et une petite distinction à l'Assemblée, c'est qu'il y a un seuil de 500 000 signatures, cette fois pour qu'un débat ait lieu en hémicycle.
Bon, c'est pas gagné. Je crois que Valentin Chapuis veut peut-être apporter une précision ou réagir rapidement. Valentin ?
Non, bah merci déjà à Xavier Berne pour le suivi de ce dossier et puis ses commentaires. Peut-être je voulais juste préciser, puisque nous avons développé donc la plateforme du Sénat, le recours à France Connect, parce que c'est aussi une innovation. Pour la première fois, France Connect est utilisé sur ce type d'outil pour donc authentifier les auteurs des pétitions, mais aussi les signataires. Et ce qui est intéressant, c'est que le Sénat a volontairement fait le choix d'un système qui anonymise par rapport au Sénat, les signataires. C'est-à-dire que la connexion est déportée vers France Connect, qui renvoie simplement la confirmation que le signataire est bien un citoyen qui a le droit de signer une pétition. ou une citoyenne, et le Sénat ne possède pas de données sur ses signataires. Et donc ça, c'est un usage assez innovant, assez intéressant sur le plan technique. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'on verra ce que donne ce nouveau service. Moi, je crois assez au rapport de force qui peut s'introduire aussi si des pétitions sont d'un seul coup très populaires. Je pense que ça sera quand même assez dur de complètement les occulter.
C'était Valentin Chaput d'Open Source Politics et Code for France qui intervenait dans le sujet d'avant. Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ?
Non, c'est bon, merci.
Bah écoute, en tout cas, merci pour ce sujet et évidemment pour le suivi de ce sujet et bien d'autres. Et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine chronique. Je te souhaite de passer une belle fin de journée.
Merci, pareillement. Au revoir.
Au revoir. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour des annonces, donc je vais essayer de toutes les faire pour une fois. Tout à l'heure, j'ai parlé des municipales de mars 2020. Bah, l'April a relancé sa campagne du pacte du logiciel libre, donc pour inviter les personnes candidates municipales à s'engager pour une informatique au service de toutes et tous, donc pour en signant le pacte du logiciel libre. Et cette année, nous participons aussi au pacte pour la transition, qui est un pacte plus large, qui propose 32 mesures. Donc le pacte pour du logiciel libre, c'est sur le site candidat.fr avec un S, ou sur le site de l'April, april.org. Et le pacte de la transition, c'est pacte-transition.org. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Aujourd'hui, en régie, nous avons le plaisir d'avoir de nouveau Patrick Creusot. T'as pas besoin de mettre ton micro, t'inquiète pas. C'est juste pour annoncer qu'en fait, nous avons mis en ligne l'interview bonus en vidéo de Patrick. Nous lui avons posé 3 questions. Donc vous pouvez la consulter sur le site de l'April, april.org. Sinon, dans les autres annonces, je regarde. Ah, si, je vais faire une petite improvisation, un petit quiz. Bientôt, il va y avoir le nouveau t-shirt de l'April qui va être un t-shirt en lien avec l'émission de radio. Dans le cadre de l'émission, tout à l'heure, j'ai menacé gentiment Léna de chanter une chanson. La première personne qui me signale, soit par courriel, soit sur un réseau social, soit sur un salon web, quelle est la référence qui se cache derrière ça, gagnera un t-shirt de l'April dédié et spécialement à la radio. C'est pas très compliqué, je vous l'assure. Donc n'hésitez pas à répondre. Sinon, je vous lance aussi une annonce importante concernant donc Chapril, le site chapril.org sur lequel nous proposons des services libres en ligne et accessibles à tout le monde. 2 nouveaux services ont été ouverts. Le premier, c'est un service de drop, de partage de fichiers. Donc c'est drop.chapril.org. Le site est basé, enfin la plateforme est basée sur le logiciel libre Firefox Send. Et un deuxième service qui est encore plus attendu, c'est un service basé sur Nextcloud qui permet de partager des fichiers, de synchroniser des agendas, des contacts, etc. Donc le site, c'est valise.chapril.org. Ah, on me dit que le standard s'excite. C'est, ou alors c'est peut-être moi qui m'excite, mais quand je parle de Chapril, non, c'est Étienne sur le salon web qui... En fait, Patrick en régie ne regarde rarement le salon web, donc je suis obligé de lui faire des signes des fois. Donc je vous invite vraiment à aller sur chapril.org, c'est 2 nouveaux services, et un grand merci à Laurent et Romain, les animateurs de ces nouveaux services. Si vous aussi vous voulez participer à cette belle aventure, n'hésitez pas à contacter les personnes du Chapril. Hein, c'est une plateforme ouverte à toute personne. Et je précise que la semaine prochaine, notre sujet principal sera consacré à Nextcloud, qui est donc cette plateforme, ce logiciel libre qui permet vraiment d'offrir un certain nombre de services absolument essentiels aujourd'hui, et de se débarrasser de ce qu'on appelle les GAFAM, des services des GAFAM. Donc de ces géants du net qui ponctionnent nos données personnelles. Alors sinon, pour tous les autres événements, vous irez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Pablo Rosier, Léna Dumont, Valentin Chaput, Xavier Berne. Je remercie Patrick Creusot à la régie. Un grand merci également à Sylvain Kutzmann et Olivier Grieco qui vont traiter le podcast avant sa mise en ligne. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, une page consacrée à l'émission avec les références. On va rajouter des références parce qu'il y a plein de nouvelles références qui ont été citées dans l'émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible. Faites aussi connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 18 février 2020. Nous parlerons donc de Nextcloud, un logiciel libre de site d'hébergement, de partage de fichiers, d'agenda, de contacts et de bien d'autres fonctionnalités. Nous aurons 2 invités, dont une des personnes qui travaille pour Nextcloud. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.